C'est la Hongroise Marta Sebenstien qui interprète ces magnifiques chansons. Elle nous suivra tout au long de notre émission aujourd'hui. Aujourd'hui en compagnie d'Alba Viotto d'Amnesty International, section de Genève, et de Mariska Forest, qui est une femme peintre de Belgique, mais qui est partie prenante totalement de l'exposition qui a lieu en ce moment et organisée par Amnesty International dans le cadre de sa campagne « Femmes engagées, femmes en danger ». Exposition qui a pour titre « Couleurs solidaires » et organisée et lieu en ce moment à l'Université ouvrière de Genève, dont l'entrée est à la place des Grottes, et ceci jusqu'au 25 septembre prochain. Alba, dans le programme en 15 points pour la protection des droits de la femme publié par Amnesty International, il en est un qui demande la prévention des violations des droits fondamentaux des femmes réfugiées et demandeuses d'asile ainsi que des femmes déplacées. Et dans l'exposition Couleurs solidaires, il y a surtout des peintures et des dessins qui ont été réalisés justement par des enfants principalement, mais aussi des femmes qui sont victimes de la guerre dans des camps de réfugiés ou emprisonnées elles-mêmes encore. C'est un choix particulier d'avoir décidé de consacrer à cela, ou c'est parce que justement vous avez fait cette rencontre particulière avec par exemple Mariska Forest qui justement elle a décidé de faire un travail de peinture et de dessin avec des enfants dans des camps de réfugiés en Slovénie avec des réfugiés bosniaques?
Non, le programme en 15 points a été établi par Amnesty avant la campagne même. Et le point particulier que vous soulevez, en fait, est basé sur les préoccupations d'Amnesty sur la vulnérabilité des femmes et des enfants dans les camps. Des femmes et des enfants qui sont livrés à beaucoup de dangers extérieurs. Par exemple, les femmes qui, dans des camps africains, en Érythrée par exemple, qui sont attaquées lorsqu'ils vont chercher de l'eau. Elles sont obligées d'aller chercher de l'eau en dehors du camp. Elles sont attaquées, elles sont violées et il n'y a pas de protection particulière. Il y a des camps où les conditions de vie sont si précaires que la mortalité des femmes et des enfants remonte très, très rapidement. Donc ça, c'est des choses qui avaient été... qu'Amnesty, c'est Londres qui a fait ce programme.
Oui, mais comment cette exposition... comment avez-vous décidé de faire cette exposition comme une des actions de la campagne? Parce que on vous a dit, voilà, cette exposition circule ou c'est la rencontre avec des personnes qui sont impliquées justement avec un travail de créativité utilisé dans les camps, justement, voilà. Comment ça s'est passé? Parce que c'est une rencontre qui doit être assez magique.
Absolument. Alors, c'est la conjonction de deux choses. Une, c'est... l'idée qu'il faut absolument donner plus d'espace aux victimes et que parfois donner de l'espace aux victimes, ça peut se faire par des moyens d'expression, comme par exemple la peinture, le dessin, etc. Et la deuxième chose, ça a été une rencontre exceptionnelle avec Mariska, qui m'a été présentée par une amie commune, qui m'a montré le catalogue des choses qu'elle avait fait dans les camps de Slovénie. Et cela m'a paru d'emblée être un moyen exceptionnel de parler par ce biais-là d'un certain nombre de problèmes qui sont inclus dans la campagne d'Amnesty. Et comme elle a été très ouverte à cette idée, nous avons travaillé à partir de là.
Alors Mariska Forest est avec nous en direct dans notre studio aujourd'hui. Bonjour encore une fois Mariska, bienvenue. Alors, Mariska, vous êtes peintre en Belgique, à Bruxelles en particulier. Il est vrai que vous animiez déjà depuis un certain temps à Bruxelles des ateliers d'expression et de créativité avec des jeunes très petits, je crois, depuis 4 ans jusqu'à l'adolescence. Mais en deux mots, parce que nous allons y revenir vraiment en détail tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a amené à un jour devoir travailler avec des enfants et leur mère dans des camps de réfugiés en Slovénie, camps de réfugiés de femmes et d'enfants bosniaques?
Je travaille effectivement à Bruxelles dans un circuit qui s'appelle les centres d'expression créative qui sont reconnus par le ministère de la Culture. Et c'est par ce biais-là, par ce ministère de la Culture, parce que je suis reconnue comme centre d'expression créative, il y en a à peu près 200 en Belgique, ils se sont mis en contact avec Cause Commune, qui est une organisation non gouvernementale qui avait... entre autres, un projet de type culturel en Slovénie.
Voilà, et c'est ce qui vous a fait partir à l'origine peut-être pour quelques mois, et puis finalement vous y êtes resté beaucoup en y revenant très souvent pendant un ou deux ans, c'est ça ?
À l'origine, le projet, moi j'étais très... j'avoue que j'étais un peu sceptique, parce que je suis peintre, j'avais surtout travaillé dans des quartiers défavorisés ou comme formatrice, mais peu dans l'humanitaire. Et donc, je leur ai dit, OK, je veux bien aller voir, je veux bien voir ce qu'il y a moyen de faire. Leur programme, au départ, était extrêmement court. Ça devait durer de avril au mois d'août.
93, hein,
93. Et quand je suis rentrée de Slovénie au mois d'août, je suis rentrée très, très déçue et très, très triste du travail et très gênée du travail que j'avais pu faire. Ce n'était pas un travail qui était abouti. Et j'ai pris sur moi, avec l'accord de Cause Commune, mais j'ai pris sur moi de pendant une année... de faire des allers-retours. Ça, j'étais obligée de faire des allers-retours parce que mon travail continuait à Bruxelles et je voulais continuer aussi à Bruxelles. Je ne voulais pas devenir une professionnelle de l'humanitaire. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir montrer et de faire tout le temps des allers-retours entre les dessins qui se faisaient à Bruxelles et les dessins qui se faisaient en Slovénie. Tous les enfants les ont vus. Il y a des thèmes qui ont été proposés aux enfants en Slovénie et à Bruxelles. Même technique, même format. Et ces enfants aussi, pour moi, à Bruxelles, c'était aussi une manière de parler peut-être autrement de la Bosnie. Je me souviens d'un petit enfant de 7 ans qui voyait un film vidéo d'un atelier que j'avais fait dans les camps. Sa première réaction, il faut dire que c'était au moment de la guerre en Somalie. Je lui avais dit que c'était en Slovénie. On avait un peu vu où était au niveau de la géographie la Slovénie. Il avait entendu parler de la guerre en Yougoslavie. Et la première réaction, il m'a dit « Ah, il n'est pas noir. Il n'est pas tout noir. » Je dis « Non, il n'est pas tout noir, c'est en Slovénie. » Et puis il me dit « Ah, il n'est pas tout nu. » Et puis il a suivi une grande discussion sur qu'est-ce que c'était un réfugié. Qu'il pouvait être autre chose que tout nu ou tout noir. Et puis il y a une petite fille qui a dit « Ah, mais celui-là, il ressemble à mon frère. » Et pour moi, ça c'est le... Moi, mon travail là, à ce moment-là, je me suis dit « Ça, c'est réussi. » au-delà de la peinture que évidemment j'aime.
Alors nous allons revenir, Mariska, très en détail sur votre travail, entre autres en s'asseyant devant un ou deux des dessins effectués par ces enfants ou ces adolescents, parce que c'est ce que j'ai fait avec vous lundi soir passé. C'était important pour moi d'être devant les tableaux. Ce sera difficile, chères auditrices et auditeurs, de vous faire partager la splendeur de ces dessins. On essayera déjà un petit bout ce soir, mais surtout de vous donner envie d'aller voir l'exposition qui, je le répète, donc, a lieu à l'UOG, à l'Université ouvrière de Genève, Place des Grottes jusqu'au 25 septembre prochain. Et Alba, dans le cadre de cette campagne et cette manifestation en ce moment, eh bien, vous proposez une rencontre jeudi soir, 20h30, toujours à l'Université ouvrière genevoise, avec les trois femmes que vous avez conviées, qui sont vos hôtes d'honneur, comme vous les avez présentées dans la petite introduction au vernissage que nous avons entendu tout à l'heure. Nous les avons rencontrées ensemble ce matin mercredi, donc c'est une très longue rencontre que nous ne voulons pas passer au rabais aujourd'hui, parce que d'abord j'ai beaucoup envie de parler avec Mariska de son travail aussi très en profondeur. On avait envie de donner vraiment la parole à ces trois femmes ce matin, et je crois qu'elles avaient très envie de parler aussi longuement. Alors je propose que En prévision de cette rencontre de jeudi, que vous allez quand même nous présenter en quelques mots, du moins le thème de la rencontre, je vous passe, chères auditrices et auditeurs, que le début de notre entretien avec ces trois femmes, que vous sachiez un petit peu qui vous allez rencontrer jeudi soir, parce qu'on espère bien que vous irez d'abord les rencontrer jeudi soir et que vous les retrouverez sur notre antenne, notre émission, mercredi prochain, sur Radio Zone, à 17h, entre 17h et 18h30. Alors, Alba, quel va être le thème de cette rencontre de jeudi soir ?
Le thème de la rencontre est la défense des droits humains. Quelle clé de lecture au féminin ? Et il y aura ces trois femmes, Cécile, Hilda et Mariano Odelia. Il y aura également une femme suisse qui a participé à la conférence de Pékin et qui pourra donner un regard, peut-être influencé par les expériences qu'elle a faites. Et puis, il y aura un homme, parce que ce sera intéressant de voir également quel peut être un regard masculin sur une clé de lecture au féminin. Alors, cela va se passer jeudi soir à l'OUG à 20h30. Et le temps de parole pour chaque personne sera extrêmement court, c'est volontaire. Ce que l'on souhaite, c'est au fond une dynamique avec beaucoup de questions qui viendront de la salle. De façon que, en fait, ça soit vraiment une rencontre d'échange et pas simplement quelque chose que d'autres personnes viennent écouter. Nous souhaitons que chaque personne puisse poser les questions qu'il veut aux personnes qu'il veut autour de la table ronde. Et nous comptons vraiment beaucoup sur beaucoup de personnes. Venez, dites-le autour de vous. Inviter d'autres amis et connaissances.
Alors voilà, je vous propose de vous présenter en quelques mots, très très brièvement, les trois hôtes d'honneur d'Amnesty International. C'est d'abord de Colombie, Mariano Odelia Parra, qui elle est très active en tant que militante syndicale dans un syndicat d'enseignants en Colombie. Son mari a été arrêté et a disparu, comme ce qu'on appelle les disparus forcés dans ce pays. Et depuis, elle ne cesse de se battre pour avoir des comptes sur cette disparition. À cause de cela, elle est victime de plein de tracasseries et de menaces dans son pays pour son obstination à savoir ce qu'il est arrivé à son mari et à d'autres disparus. Et elle continue bien sûr à être très active dans son syndicat. Il y a Cécile Nibatume qui est du Rwanda. Cette jeune femme est assistante sociale et elle travaillait au sein d'une association qui s'appelle Duterimbere dans la langue du Rwanda, ce qui veut dire, attendez que je me souvienne, femme rwandaise, allons de l'avant. Et avant le génocide de l'année passée, eh bien, elle participait activement à cette association qui travaille pour la promotion des femmes à faible revenu. Et puis, elle a été gravement touchée par la tragédie de l'an passé. Son mari a été assassiné devant elle. Elle a été très grièvement blessée, ses enfants aussi. Mais par chance, on la croyant morte, on les a abandonnés là. Ils ont été secourus par d'autres gens. Et aujourd'hui, elle a recommencé à travailler dans cette même association parce qu'avec d'autres femmes, elles ont décidé que même si leur lieu était détruit, s'il n'y avait plus rien, il fallait qu'elles recommencent et non seulement à aider les femmes les plus pauvres, mais aussi les femmes traumatisées par le génocide. Et puis, troisième femme, c'est Hilda Narciso qui, elle, a l'histoire la plus ancienne des trois. Elle était enseignante et on peut dire qu'aujourd'hui, elle est devenue thérapeute. Elle a été arrêtée aux Philippines, torturée, violée, victime de toutes sortes de sévices sexuels, et puis finalement libérée, entre autres grâce aux campagnes d'Amnesty International. Et aujourd'hui, elle n'a de cesse aussi de travailler avec les victimes de violences sexuelles comme elle, plus de 10 000, dit-elle, femmes, hommes qui ont été arrêtés, qui ont disparu, etc., sous le régime du dictateur Marcos, et malheureusement encore aujourd'hui, comme elle nous l'expliquera. Alors ces trois femmes, je leur ai demandé juste d'abord, leur ai posé d'abord une première question, et c'est ce petit bout, cette introduction que j'aimerais vous faire entendre, histoire de qu'elles se présentent elles-mêmes. Pourquoi elles ont envie d'être là à Genève? Elles ont accepté l'invitation d'Amnesty International.
Vous avez été invitée par Alba Viotto et Amnesty International à venir à Genève pour à l'occasion de cette campagne sur le thème femmes engagées, femmes en danger. Ça veut dire qu'il y a bien des chances qu'on vous demande plusieurs fois de témoigner de ce que vous avez vécu, puisque vous avez été des femmes en danger, vous avez été très menacées chacune, l'une l'autre, et vous avez vécu des souffrances importantes. Est-ce que pour vous, c'est important de répéter ce que vous avez vécu, de témoigner de ce que vous avez vécu, même si ça veut dire qu'il faudra peut-être le redire plusieurs et plusieurs fois, alors même que vous n'avez peut-être pas envie non plus, vous, de redire tout le temps ça? Alors, je propose que Cécile, qui vient du Rwanda, nous explique peut-être, elle, ça, son sentiment.
Pour moi, en étant invitée par l'Amnesty International, je comprenais que, justement, j'allais parler et témoigner du cas, surtout du Rwanda, peut-être de moi personnellement. Et j'étais d'accord de venir, puisque je me sentais un peu, je voyais l'occasion de parler de ce qui s'est passé pour moi et aussi de changer de milieu de vie aussi. Il me fallait que je quitte un peu le Rwanda pour rencontrer des autres gens qui vivaient à l'extérieur, qui n'ont pas vécu des moments difficiles du Rwanda. Donc pour moi, j'étais un peu préparée pour parler de l'expérience que j'ai vécue au Rwanda. Et ça ne me causait pas de problème de continuer de le répéter s'il le faut.
Donc il vous semble, Cécile, que c'est très important de communiquer à d'autres ça. Mais c'est important pour les autres ou c'est aussi important pour vous?
Oui, je crois que c'est important pour moi, mais aussi c'est important pour les autres, puisque les gens qui vont entendre comment j'ai pu accepter cette situation, que je suis capable de la répéter, de la dire, pourront peut-être essayer aussi de surmonter ce qui est ils voient ou entendent pas des médias et tout ça. Et je crois aussi que c'est une occasion pour des personnes qui ont vécu la même chose de pouvoir se surmonter aussi, puisque eux aussi peuvent se sentir à l'aise de parler de ce qui s'est passé pour eux. Je crois que c'est une sorte de thérapeutique pour des personnes qui ont vécu ces moments difficiles.
Vous, Cécile, vous le ressentez comme ça? Pour vous, c'est une thérapie, ça va vous aider de reparler?
Oui, ça m'aide, puisque quand je parle de ce qui s'est passé, je me sens un peu déchargée. Je vois que je suis en train de faire face à la situation et de voir ce que je peux faire dans l'avenir.
Marianne Odell, il y a ce qui vous est arrivé à vous, la disparition de votre mari, est une chose plus ancienne que les événements qu'a vécu Cécile, puisque c'était en 1989. Mais je suppose que c'est encore une chose douloureuse pour vous. Comment vous réagissez à cela?
Es verdad que mi esposo fue desaparecido hace más de 6 años. Pero es como si lo viviera todos los días.
C'est vrai que mon mari a disparu il y a plus de 6 ans, mais je le vis comme si ça avait été hier.
Para mí no hay ninguna dificultad en expresar, en recordar al mundo entero para crear una sensibilidad sobre la situación de derechos humanos en Colombia.
Pour moi, il n'y a pas de problème de m'exprimer, de répéter plusieurs fois sur ce qui se passe en Colombie, parce que c'est important que les gens le sachent.
En Colombia, no hay solamente narcotráfico. hay también unas personas que no estamos dedicados a este oficio y que constantemente se nos violan los derechos humanos por parte de los agentes del Estado.
En Colombie, il n'y a pas seulement le problème du narcotrafic, mais il y a aussi le problème de la violation des droits de l'homme de la part des organismes de l'État.
Para los familiares de los desaparecidos es importante expresar lo que sentimos, como para darle escape a las emociones y para decirle basta ya a las desapariciones forzadas en el mundo.
Pour les familiers de disparus, c'est important de dire que ça suffit, basta ya, et que... Il est bon de s'exprimer face au monde.
Et pour vous, Marianne Odelia, c'est important aussi pour vous, depuis toutes ces années, ça a été utile pour vous aussi de parler?
Y para usted, no, Marianne Odelia, es importante de decirlo, de comunicar todo lo que ha vivido.
Sí, para mí como persona, como miembro de una organización, ASFADES, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, es importante recordarle al mundo, a la comunidad internacional, a los colombianos que se encuentran presentes en Europa, de que en Colombia todavía sigue sucediendo la desaparición forzada de personas.
Oui, pour moi, faisant partie de l'association de familiers de disparus, c'est important de dire, dire qu'il y a des disparitions forcées dans le, non seulement à mon pays, donc aux Colombiens, mais au monde entier.
Hilda, vous vous trouvez aussi dans cette même situation. C'est une histoire qui vous est arrivée à vous cette fois, mais qui est aussi plus ancienne. Vous avez eu le temps de retravailler. Reparler aujourd'hui, est-ce que c'est un problème?
No. Actually, I responded to this kind of an invitation from the Amnesty International, which I would say thank you for giving me a chance to reach out more and more people, because I've been talking so for a long time already, since 1985, and from that time it's really a breakthrough from 1985, but it's not difficult to talk over and over again.
Elle a accepté l'invitation de venir en Suisse parce que c'était une opportunité pour elle de parler à plus de monde de ce qui lui est arrivé, et même beaucoup de temps après, elle pense que c'est toujours important d'en parler.
Oui, puisque les événements qu'il a vécu étaient en 1985. You can go ahead.
Actually, it's to talk about my accounts or my testimony is quite very painful. But on the process that I've been doing this had given me a lot of liberation. And I'm hoping that a lot of women can be liberated to speak out of what had happened to them. Actually, it's not easy, and it's so degrading for us, and it can also draw us backward if we will not come out into open.
C'est toujours difficile de parler de son expérience, même étant d'années après. Pourtant, elle lui semble que cela, c'est comme une libération. Et elle espère que si c'est une libération pour elle, cela peut être aussi une libération pour d'autres femmes qui pourraient parler. Elle dit que parler du viol, c'est une chose qui a des aspects dégradants. C'est ressenti comme ça, donc ce n'est pas facile. Mais elle a choisi de le faire et souhaite continuer à le faire.